Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Phoenix, vous êtes romancier, spécialiste du renseignement et vous commentez l'actualité stratégique. Pour ce troisième épisode, je voudrais parler d'Emmanuel Macron.
Bonjour Laura.
Bonjour Phoenix. Dans son édition du 4 mai, The Economist fait sa couverture sur Emmanuel Macron et publie un interview du président français. Il y décrit le triple danger pour l'Europe, c'est-à-dire militaire, économique et civilisationnel. Sur le plan militaire, il parle évidemment de la Russie et de la guerre en Ukraine. Il revient d'ailleurs sur ses propos du début mars et réitère qu'un engagement de troupes françaises sur le sol ukrainien n'est pas à exclure. Qu'en pensez-vous ?
Il parle de la menace nucléaire. Je crois que on avait fait le compte, entre Poutine, Medvedev, rien qu'entre eux, ça a été utilisé entre 30 et 50 fois depuis le début de l'opération militaire spéciale, ce qui est pas mal. Le président français parle aussi de la nécessité pour l'Europe de s'affranchir de la dépendance militaire envers les États-Unis. Oui, évidemment. Bon, donc rien de nouveau sous le soleil. Et en effet, oui, sur les troupes au sol, comme vous l'évoquiez, il persiste et signe.
Mais cette fois-ci, il est plus spécifique. Il dit, je cite, « Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question. Et donc je pense que l'écarté a priori, c'est de ne pas tirer les enseignements des deux dernières années. » Ça vous fait réagir ?
Oui et non, le problème c'est pas le fond. Évidemment qu'une confrontation directe avec la Russie, bien qu'elle me semble extrêmement improbable, ça reste une possibilité. Pas une possibilité demain, ni une possibilité dans 6 mois, mais qui sait ? Ceci dit, est-ce qu'il est nécessaire d'en parler tous les 2 mois ? Moi je ne crois pas. Après, sur son intervention, enfin donc l'interview de l'économiste, le timing n'est évidemment pas innocent. Les élections européennes sont dans 1 mois. Il est clair qu'il s'adresse avant tout au public français et européen. Et puis, prenons un peu de recul et commençons à faire un peu un bilan de sa politique étrangère. Depuis le début de la présidence Macron, le pouvoir du Quai d'Orsay a beaucoup diminué au profit de la cellule diplomatique de l'Élysée. C'est assez connu maintenant et c'est son choix. Mais ce choix est porteur de résultats. Et ces résultats, ils ne sont pas forcément bons. On a eu l'échec au Liban au début de sa première présidence, toutes les tensions avec la Turquie et avec Erdogan, l'histoire avec Trump. Au début, il faut reconnaître ça, Emmanuel Macron, il a bien senti le personnage et ils ont eu une sorte de lune de miel. Bon, maintenant, Trump ne veut plus entendre parler de Macron. Après, on a évidemment ce qui est plus connu et plus dramatique, si je puis dire, en termes d'influence de la France en termes de soft power et de hard power, c'est que la moitié de la zone historique d'influence de l'Afrique de l'Ouest a été perdue au profit des Russes, d'abord avec Wagner, maintenant c'est directement sous la tutelle de l'armée russe, ça a été perdu que ce soit au Niger, au Burkina Faso, au Mali évidemment, mais il y a plein d'autres pays où l'influence russe continue à fonctionner à plein régime, et tout ça, ça a été perdu en quelques années. Ce qui d'ailleurs explique le renvoi de Bernard Aimier, qui était donc le directeur général de DGSE au profit de Nicolas Lerner, qui lui est un proche de Emmanuel Macron. Donc, on a, avec tout le respect dû au chef de l'État, on a toutefois un problème de stratégie, un problème de cohérence, qui s'explique aussi par un problème de canaux diplomatiques, de collecte et d'analyse du renseignement. Or, on ne fait pas du back channel,
c'est-à-dire des négociations secrètes visant à résoudre des problèmes conflictuels.
Oui, c'est ça. On ne fait pas du back channel en parlant entre soi dans un palais du 8e arrondissement, mais avec des hommes de terrain qui maîtrisent la langue, connaissent les mœurs, les acteurs, les noms des rues des villes où ils agissent et qui savent s'appuyer sur leur chef de station de la DGSE. Le résultat, pour revenir sur Russie-Ukraine, c'est que depuis le début de la guerre, le président est allé d'humiliation en rebuffade.
Donc selon vous, il aurait eu tort d'aller voir Vladimir Poutine pour essayer d'arrêter la guerre ?
Je ne lui reproche pas l'intention, ce que je lui reproche c'est la réalisation. Les services de renseignement et les réseaux diplomatiques, ce sont les instruments essentiels de la stratégie de politique étrangère d'un chef d'État, surtout un chef d'État français. Or, quand on n'écoute pas, ben on vous dit plus rien. Donc depuis l'échec de février 2022, et ces déclarations du début, on se souvient très, très bien de ce qui... Ça avait d'ailleurs beaucoup choqué les Polonais, les Ukrainiens, enfin tous les pays de l'Est et d'Europe centrale. Ces déclarations alors que la guerre faisait rage, sur « il ne faut pas humilier la Russie ». Donc depuis, c'est tout cette multitude de faux pas, Emmanuel Macron essaie de réémerger. Après, le fait que les deux autres grands pays d'Europe de l'Ouest soient dirigés par des leaders qui sont finalement aussi faibles, Scholz qui n'arrive pas à décoller en Allemagne, et Sunak qui en gros sera balayé à la prochaine élection, ça donne un peu à Emmanuel Macron l'illusion qu'il peut brandir le flambeau du leadership européen. Mais bon, le vrai objectif de toutes ces déclarations, on le connaît.
Et c'est quoi ?
D'abord, il y a cette idée très française que le verbe peut supplanter l'acte. Ça, c'est vraiment très français, ça agace énormément les Anglais, les Américains ou les Allemands. Donc, Emmanuel Macron parle. Mais surtout, il essaie de résoudre la quadrature du cercle, je dirais. D'un côté, il y a la situation de la France, avec un endettement qui a encore atteint des niveaux historiques, un déficit budgétaire absolument catastrophique, sur le plan militaire, des stocks de munitions de l'armée qui restent toujours au plus bas. Et pourtant, ce n'est pas l'aide militaire qu'on envoie en Ukraine qui a un impact si extraordinaire sur les stocks de munitions de l'armée, puisque la France est un des pays qui envoie le moins de matériel en Ukraine, ce qui nous est d'ailleurs suffisamment reproché. Peut-être pas dans la presse hexagonale, mais je peux vous assurer, dès que vous sortez étranger, vous parlez des Ukrainiens, malheureusement, c'est quelque chose qu'on entend. Mais bon, la crédibilité de la diplomatie française a pris un sale coup. Mais après, c'est Emmanuel Macron. Donc, une de ses particularités, c'est qu'il ne reconnaît jamais ses erreurs. Donc, pour résoudre la quadrature du cercle, il veut en fait un effort militaire européen, parce que ça, c'est sûr qu'il en parle, heureusement, qui soit financé par les autres, des contrats qui tombent dans l'escarcelle des géants de la défense français, parce qu'il a évidemment un déficit du commerce extérieur à gérer, et des matériels militaires qui continuent à être envoyés à l'Ukraine, plutôt par les Britanniques ou les Allemands. Et en échange, lui propose des idées.
C'est tout de même un peu réducteur, non ? Vous ne pensez pas que ces déclarations sur les troupes au sol vont faire réfléchir Poutine ?
Au mieux, le président russe va se venger à l'occasion des Jeux Olympiques pour chercher à humilier Macron encore davantage. Mais il y aura peut-être des déclarations. Les déclarations de la dernière fois sur la première mention des troupes au sol faites par Emmanuel Macron au début mars. Poutine s'était pas mal lâché au cours d'un interview sur la télévision russe. Encore une fois, en brandissant la menace nucléaire. Ça commence presque à être fatigant. Enfin bon, si le président français est sérieux, il a encore l'opportunité de se racheter.
Comment ?
Pour une fois, et ça c'est sûr qu'il n'aime pas beaucoup, en faisant comme les autres. Depuis le début de la guerre, la Pologne, par exemple, a augmenté son budget de la défense jusqu'à 4% du PNB. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans le passé. Ça veut dire un doublement en 2 ans. L'Estonie, elle, s'approche de 3,5%. Les deux autres pays baltes, Lettonie et Lituanie, sont aux alentours de 3%. Le Royaume-Uni, même avec Rishi Sunak, qui a une vision un peu plus comptable de l'économie, un peu comme Emmanuel Macron, a annoncé très récemment, après c'est vrai que les élections, mais cette fois-ci les élections générales, parlementaires, arrivent en Grande-Bretagne, il vient d'annoncer qu'à l'horizon 2030, le Royaume-Uni augmenterait le budget de la défense à 2,5% du PNB, ce qui est bien au-dessus du critère minimum de l'OTAN, qui est pour le moment à 2%. Bon, après, c'est évidemment pas assez, mais il y a quelque chose d'intéressant, puisque hier, le Daily Telegraph a sorti une exclusivité, encore une fois à propos de Donald Trump, et dans le Daily Telegraph, il était évoqué ce fameux dîner que Donald Trump a eu avec le président polonais Duda à New York dans la Trump Tower.
Dont nous parlions dans l'épisode 1, le dîner qui valait 95 milliards de dollars.
C'est ça exactement, le fameux dîner qui a peut-être eu une influence sur le vote de l'aide militaire à l'Ukraine, Israël et Taïwan, qui est passé donc il y a une bonne semaine. Donc oui, le président Duda aurait convaincu Trump de donner une seconde chance à l'OTAN sans pour autant relâcher la pression sur les Européens. Donc, d'après le Daily Telegraph, Trump envisagerait de monter le minimum requis par l'OTAN par ses États membres à 3% du PNB, hein, pour le budget de la défense, mais en excluant l'aide militaire à l'Ukraine du calcul. Bon, après, ça a beau être Donald Trump, il n'a pas forcément tort. Hein. Depuis 30 ans, l'atrophie des moyens de notre souveraineté nationale, le budget de la défense en chute libre, le désinvestissement dans les usines d'armement, tout ça, ça s'est accompagné d'une explosion phénoménale de la dette et des dépenses sociales. Donc, la situation, elle est tellement paradoxale. On a un État, en France, mais dans aussi beaucoup d'autres pays d'Europe, mais en France, c'est encore plus visible, je trouve. On a un État qui dépense de plus en plus, mais qui est de plus en plus faible, militairement, mais aussi diplomatiquement, face à un monde qui, lui, devient de plus en plus dangereux. Pendant ce temps, la Russie a un budget dédié aux opérations de désinformation qui est estimé au minimum à 2 milliards de dollars. Elle a un budget de la défense qui vient d'être augmenté de 70% en 2024. Et ça, ça vient après des augmentations extrêmement importantes en 2023 et en 2022. Alors, face à ça, pour justifier l'apathie, on a cette sale habitude de comparer les budgets de la défense en France et en Russie et d'y voir une différence soi-disant raisonnable avec un budget de la Russie. Et c'est surtout ce genre de chiffres qu'on voit circuler dans les médias qui seraient aux alentours de 80 à 100 milliards de dollars par an. Bah, tout ça, c'est faux. La réalité, c'est qu'on doit calculer ces budgets, surtout quand on parle de pays avec des économies extrêmement différentes, comme la Russie et les pays d'Europe de l'Ouest, on doit calculer ça en PPP, c'est-à-dire en Purchasing Power Parity. En effet, quand on a des coûts salariaux, des coûts de production, des coûts de matériaux beaucoup plus faibles en Russie qu'en Europe, on peut par définition pas acheter le même nombre de tanks avec 100 millions de dollars en Russie ou en France ou aux États-Unis. Donc, si on fait ce calcul en PPP, on arrive à une différence beaucoup plus parlante, puisque le budget de la défense russe en 2024, en tout cas, serait estimé à 380 milliards de dollars, ce qui est colossal et n'a rien à voir avec les chiffres absurdes qu'on nous avance en permanence. Ça veut dire, la différence, c'est qu'on passe de ce qu'on entend souvent, « Oh, le budget de la défense russe, c'est 10% du budget américain », ce qui d'ailleurs ne veut pas dire grand-chose, là, maintenant, on est à plus d'un tiers du budget américain. On n'est plus du tout sur le même ordre d'idées. En France, le budget de la défense est de l'ordre de 44 milliards d'euros. Il est censé passer à 60 avec la loi de programmation militaire qui a été votée l'année dernière en 2023, tandis que celui des retraites, lui, il est proche de 350 milliards d'euros par an. 350 milliards. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Et personne n'est content. Mais dans notre pays, c'est tabou d'en parler. Donc on a une situation géopolitique qui n'est pas sans rappeler la deuxième moitié des années 30. On arrive après 30 ans de coupes de défense qui sont quand même assez dramatiques. Et pourtant, la réaction est timide. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, mais même dans nos sociétés d'Europe de l'Ouest, hein, je ne pense pas que ça soit unique à la France, il y a un blocage. Et ce blocage, c'est un système social handicapant, ruineux, intenable, infinançable. Mais allez raconter ça aux électeurs.
Vous êtes un peu injuste. Emmanuel Macron a hérité une situation de désinvestissement qui commence, comme vous l'expliquiez d'ailleurs, il y a 30 ans.
C'est vrai. Et au moins, lui, il n'est pas responsable de Nord Stream 2, hein, donc qui était le gazoduc. Il n'est pas responsable de n'avoir rien fait en mars 2014, quand Poutine a annexé la Crimée, sans parler de la Géorgie en 2008, des manœuvres en Moldavie, en Arménie, les innombrables attaques cyber sur les pays baltes, commencées par l'Estonie en 2007, et sans compter évidemment les centaines d'opérations clandestines exécutées lors des 15 dernières années. Mais ça n'est pas une excuse. Il a, Emmanuel Macron, l'opportunité de corriger 30 ans de négligence coupable.
C'est-à-dire ?
Augmenter le budget consacré à la défense de 50% pour commencer, tout en baissant le déficit budgétaire. reconstruire le tissu militaro-industriel, ouvrir le secteur émergent de la technologie militaire, du big data, de la miltech au partenariat public-privé, fédérer certaines dépenses à niveau européen, ce dont il parle d'ailleurs, faire un nouveau pacte avec Bruxelles pour exclure les augmentations de dépenses militaires de la règle des 3%, comme d'ailleurs le proposait, je crois, en 2022 Jean-Yves Le Drian, s'asseoir avec les armées qui alertent les politiques depuis 30 ans sur la situation et les écouter, et j'en passe. Mais ne pas retourner la tendance maintenant, c'est aussi criminel que de ne pas le faire en 1935. Quant aux déclarations d'intention du président sur l'envoi de troupes au sol, je reprendrai le commentaire de son prédécesseur.
François Hollande ?
Oui, le seul président français récent pour lequel Poutine, paraît-il, éprouvait un peu de respect. Je cite « Moins on en dit, mieux on agit ».